Donc voilà, nous voilà à nouveau sur Radio Esperanza sur le 106.2. Nous sommes toujours à l'abbaye de Floreff et ceci pour encore 2 jours de festival endiablé Esperanza. Je suis maintenant en présence de 2 artistes à multiples casquettes, si je puis les nommer ainsi. Alors j'ai Salifu Kientega, et j'espère que je prononce correctement, ainsi que Elisabeth Lenoir. Bonjour.
Bonjour Kiki.
Alors... J'ai reçu l'information que vous arrivez en direct ligne de Haïti pour mieux repartir l'un vers Bruxelles et l'autre vers le Burkina. Est-ce que cette information est bien juste ?
Oui.
Mais comment ça se fait qu'un avion d'Haïti s'arrête à Floreff pour repartir au Burkina ? Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu arrives ici ou en tout cas que tu fais Haïti-Burkina ? Je m'interroge.
Merci Kiki. D'accord, d'abord je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis au niveau de Radio Esperanza. Et vous dire aussi que ça fait un grand plaisir pour moi d'être à Esperanza parce que c'est pour ma première fois, même si je connais René depuis 15 ans et que nous avons fait beaucoup de projets ensemble en Afrique. Et on est parti ensemble aussi au Festig, sur Alfred. Donc voilà, on a fait beaucoup de chemin, on a. Avec René, on a aussi fait la tournée de Un homme est un homme en 2010. On a fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. On a repris encore au Sénégal. On est venu en Belgique pour travailler sur des migrants. On est même allé à Garango pour interviewer des migrants et pouvoir sensibiliser les gens là-dessus et poser des questions justes sur la migration. Et à l'époque, c'est Roland Mayodeb du Théâtre de Poche qui nous a permis de faire cette création. Et avec René, on continue toujours sous l'aventure de Vision, que nous sommes partis avec 5 comédiens belges et 5 comédiens burkinabés. Nous avons fait un travail à Gawa. Gawa, sur le Lobi, le peuple qui a pu conserver ses rituels depuis, qui n'a pas été trop bousculé par la colonisation. Et nous avons fait ce travail. Et dans ce travail, Elisabeth, qui est ici présente, s'est connue depuis 2004 dans la première rencontre au Théâtre de Poche. Et quand elle a fait l'audition avec René Georges, elle a été retenue, elle est revenue au Burkina Faso dans le cadre du projet Vision. Et c'est là où l'idée de créer celle qui veille est née. Elle est venue, elle a tout de suite rentré en contact avec Sarah Blion, qui était aussi dans le projet Vision. Et après, ils sont venus vers moi en me disant, Salif, écoute, nous sommes venus dans ton pays et nous avons observé les femmes, comment les femmes vivent au Burkina, les conditions des femmes et tout ça. Et ça nous a beaucoup touchés et nous voulons faire un projet autour de ça. J'ai dit, c'est très bien, c'est bien réfléchi. Voilà, est-ce que tu pourrais nous accompagner? J'ai dit oui tout de suite parce que je suis un homme féministe, si je puis le dire, comme ça. Parce que moi, étant petit, je suis né en Côte d'Ivoire et mon père était burkinabé en Côte d'Ivoire. Et qui dit burkinabé en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce que ça veut dire. Parce qu'à l'époque déjà, on vivait dans une communauté qui s'appelle les Abrons et ils nous appelaient les Tanfors. Et quand on disait les Tanfors, ça veut dire que des gens qui sont venus de loin, des étrangers. Et du coup, je voyais que étant petit déjà, on n'était pas trop accepté. C'était un peu cette lutte-là. Et après, je vis au Burkina Faso avec mes parents. Bon, après, il y a eu la guerre, on est venu au pays. Et j'ai compris tout de suite qu'au niveau même de ma société, c'est-à-dire que les Moussis, il y a trop de lois au niveau de la tradition qui ne favorisent pas la femme. Et tout le monde sait qu'au Burkina Faso, il y a l'évira, il y a le mariage forcé, il y a l'excision. Donc, la condition de la femme au Burkina Faso, je me dis qu'il y a encore du travail à faire. Et quand ceci est venu, je me dis c'est l'occasion de parler de la femme au Burkina. Et en même temps aussi, c'est parler de ma maman. Parce que tout récemment, quand j'ai perdu mon père, c'était très dur pour nous. Mais toutes les décisions qu'on prenait, la maman n'était pas impliquée. Nous prenons les décisions en tant qu'hommes et on informait à nos mamans plus tard. Et pour moi, donc nous avons fait cette première exploration au Burkina Faso avec Monique Ilboudo, qui est l'ancienne ministre des droits de la femme et des droits humains. Et elle a donné une conférence aux comédiens et à toutes les associations de femmes que nous avons invitées au Burkina Faso. et nous avons donné l'atelier une restitution aussitôt. Et après, nous sommes partis, comme vous le disiez très bien, nous sommes partis en Haïti.
Le Cito, c'est quoi encore pour ceux qui ne connaissent pas
Le Cito, c'est le carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Et voilà, au Burkina, quand tu dis le Cito, tout le monde connaît. Et voilà.
Pour nos auditeurs qui n'ont pas encore voyagé jusque-là,
Voyager
je
au
me suis
Burkina,
permis de
si.
t'interrompre.
Voilà, merci beaucoup. Et tout ce qui arrive au Burkina Faso, vous pouvez demander, allez voir un spectacle le Cito, ça va toujours faire du bien. Voilà.
Et je suppose qu'après, on dit il faut prendre une bonne braquina et un poulet bicyclette ou quelque chose comme ça.
Oui, vous pouvez prendre une braquina bien tapée, ce qu'on dit chez nous, voilà. Et voilà, un poulet bicyclette, voilà, et un tout bien chaud, voilà, pour vous souhaiter déjà bonne arrivée avant de rentrer vraiment dans le vif du pays, le vif du sujet. Et vous serez toujours la bienvenue au pays des hommes intègres. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans son projet féministe, Sankara nous a parlé beaucoup de la femme. Pour ceux-là qui connaissent Sankara, je sais qu'à un moment donné, Sankara disait, est-ce que lors de ses rencontres des écoliers, il disait, écoutez, et les femmes, les filles écolières, quand elles sont enceintes, elles ne peuvent pas venir à l'école. Mais l'homme qui a enceinté la fille, lui, il est libre toujours d'aller à l'école. Il trouvait que ça n'allait pas. Et depuis lors, au Burkina Faso, une fille qui est enceinte, elle peut aller à l'école. Donc voilà, Sankara nous a parlé aussi du 8 mars. Le 8 mars, Sankara disait, les hommes pouvaient aller au marché, payer les condiments, venir faire la cuisine pour vos femmes. Donc pour Sankara, c'était une manière aussi pour que l'homme puisse se frotter au quotidien de la femme. De savoir que, tu vois, par exemple, certains hommes donnaient de l'argent à leurs femmes pour aller faire le marché. Ils trouvaient que c'était trop cher et tout ça. Mais quand ils partaient au marché, ils s'en rendaient compte comment ça coûtait les prix des légumes et autres, tu vois, pour venir à la maison. C'est cher. Donc, tout ce coup, ça prend conscience. Et l'homme se frotter au côté de la femme, ça fait toujours du bien. Et moi, arrivé en Haïti, je vais parler quand même de notre aventure en Haïti. Moi, arrivé en Haïti, j'avais plusieurs questions dans ma tête. Je ne savais pas, 8 heures 6 heures de décalage, 8 heures de vol, je me posais beaucoup de questions. Que sont devenus nos frères qui sont partis depuis longtemps et qui nous ont quittés? On a l'impression de les oublier. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont toujours. Est-ce qu'on se ressemble toujours? J'avais beaucoup de questions. Et avec des gros clichés comme ça dans la tête, j'arrive en Haïti. Je regarde autour de moi, je regarde les gens, je trouve, écoute, c'est des frères, mais les Haïtiens. Et dès qu'ils arrivaient, je me confonds tout de suite aux Haïtiens. Et chaque fois qu'ils me voient, ils me font, t'es un Haïtien. Et chaque fois que je dis, quand je parle, ils me disent, non, 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 t'es Africain.
Mais donc à l'accent.
À l'accent, ils me reconnaissent tout de suite, ils savaient que je suis un Africain. Et ils me disent, ah, t'es Africain. Je dis, oui, je suis Africain. Et c'est comme ça qu'on a appris quand même à se côtoyer. Après, j'allais au marché en Haïti. J'ai dit, ben, votre marché, c'est un marché africain. Tout ce qu'on trouve en Haïti, on trouve en Afrique. Et tout de suite, j'ai dit à Elisabeth, à Sarah et à Judith, j'ai dit, ben, au marché, ce que j'ai trouvé des tarots. J'ai dit, ben, c'est le tubercule qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup mangé ça. Il y avait des ignames, il y avait. Tout ce qu'on trouvait, on trouvait en Haïti. Et j'ai vu aussi, tu vois, les plats que les femmes mettaient, toutes sortes de produits pour vendre sur la tête et tout ça. Oui, je voyais ça en Haïti. Voilà. Et après, j'ai rencontré cette Mambo qui m'a expliqué l'histoire d'Haïti dans le vaudou.
Mambo.
Le Mambo, c'est. Je voulais en Haïti, c'est des prêtresses vaudou, les Mambo. Et elle m'a parlé un peu du vaudou, comment le vaudou arrive en Haïti, quelle est la connexion avec l'Afrique, quels sont les rites qu'ils trouvaient. Elle m'a même parlé des rites Congo, des rites guidés. Donc voilà, des incantations qui venaient tout droit de l'Afrique. Elle m'a parlé aussi de certains rites que je voyais que, bon, ouais, ça se faisait chez nous. Oui, ça, je me reconnais ici. Oui, ça, c'est comme ça. Voilà, donc voilà, c'était la rencontre vraiment très forte à ce niveau-là. Et au niveau des actrices aussi, nous partons toujours sur une page blanche. Nous arrivons, on arrive avec une page blanche et c'est avec les actrices haïtiennes, la femme haïtienne qu'on arrive à explorer ensemble, aller chercher des choses, discuter ensemble et amener ça sur le plateau, envoyer une restitution.
pour ne pas à un moment donné, quand on voit sur le plateau la misère des gens, on n'est pas là pour montrer que les gens sont pauvres. On n'est pas là pour dire que non, la femme haïtienne souffre plus que la femme belge. Non, non, la femme burkinabée n'a même pas de privilèges. Non, on n'est pas dans ça. On est dans pour raconter l'histoire au moment précis. Comment conjuguer l'histoire ensemble? Comment partir de la petite histoire pour raconter la grande histoire? Quelles sont les questions que nous devons poser en tant qu'humains? C'est très important pour nous aujourd'hui. Pour moi, je dis toujours que le jour qu'un Burkinabé va se sentir frustré ou un Burkinabé va pleurer parce qu'un Chinois a été frappé en Chine, je pense qu'on aurait fait un grand pas dans l'humanité.
Et alors, mais du coup, je me tourne assez légitimement vers Elisabeth parce que tu la cites à plusieurs reprises dans tes découvertes, que ce soit au marché ou avec la Mambo et aussi le contexte de ces rencontres avec ces femmes. Mais je me demandais, tiens, toi, Elisabeth, tu viens de Belgique. Mm-hmm. Le constat, j'imagine, qui est celui d'une femme de type eurasien qui arrive là-bas en Haïti. Est-ce que c'est le même que ce que nous a raconté Salifou? Est-ce que tes constats sont différents? Est-ce que tes impressions sont différentes? Quel a été ton Haïti à toi?
Oui, moi, c'est un peu différent, en effet. Déjà parce que le rapport des gens, comme je suis blanche et que Salifou est noire, il y avait quand même une grande différence d'approche vu qu'on pensait qu'au premier abord que lui était haïtien. Donc il y avait toujours une manière dont on l'abordait et puis après une découverte quand on se rendait compte qu'il était africain. Alors que moi, bien sûr, je ne peux pas bénéficier de cette ambiguïté vu que, enfin, on me disait peut-être plus américaine. Je disais non, je suis belge. Donc déjà, il y avait ça qui changeait. Ces femmes haïtiennes, moi, j'ai essayé vraiment le plus précisément possible de, comme disait Salifou, de venir avec une page blanche, c'est-à-dire de laisser de côté tout ce que j'avais comme a priori sur Haïti, sur le pays le plus pauvre du monde, parce que c'est comme ça qu'il est présenté bien souvent. Dès qu'on voyait une voiture où il y avait des blancs, c'était une ONG. Donc il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'ai vraiment fait le pas de laisser ça de côté parce que nous, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions. On est des petites compagnies de théâtre, donc on était vraiment au plus proche des gens qui vivent là-bas, des Haïtiens. Donc déjà, ça, c'était important pour nous. On n'était pas à l'hôtel, on était vraiment dans un appartement à Port-au-Prince, sans climatisation, sans ventilateur. Je dis ça, ça paraît anodin, mais c'est très, très important dans le rapport aux autres, dans le rapport où qui sont tes voisins, de voir comment ils vivent, s'ils mettent la télé à fond ou pas. Enfin, moi, j'aime les choses concrètes du quotidien et vivre avec les gens, en fait. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus de choses en les regardant vivre qu'en lisant un article. Sur la vie des gens, en fait. Et je trouvais que c'était une grande opportunité pour moi d'y aller et de vivre comme ça. On a rencontré 5 comédiennes haïtiennes durant 3 semaines. Donc c'est quand même pas rien. 3 semaines, on est parti vraiment de leurs expériences vécues en tant que femmes. Donc on venait avec des improvisations, plutôt avec une méthodologie théâtrale qui les faisait parler elles, sans que nous n'orientions les thématiques. Elle savait qu'on allait parler de la condition des femmes, de leurs conditions. Elle disait ce qu'elles avaient envie par rapport à leur vécu, comme elles en avaient envie au départ. Et après, on travaillait cette matière-là comme une matière brute. Et après, on la théâtralisait, on la distendait, on la tordait, on la malaxait pour en faire un matériau théâtral. Donc, elles nous ont offert vraiment le regard sur leur société, parce qu'une société... qui est regardée par celles qui en font partie. C'est un regard, moi, qui m'intéresse vraiment fort. Justement, ne pas venir avec quelque chose que je projette, mais recevoir ce regard-là. Ça, c'était vraiment ce pourquoi je suis allée en Haïti avec toute l'équipe. C'était très clair entre nous tous. Et voilà, ça s'est fait. On a trouvé d'ailleurs des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé, auxquelles aucun d'entre nous n'aurait pensé. Et c'est venu d'elles, et vraiment la rencontre s'est faite à ce niveau-là. Donc oui, en effet, elles m'ont bousculée. Elles m'ont, euh, elles m'ont, Elles m'ont appris énormément de choses sur la manière de résister, sur la manière de... On a la comédienne qu'on a sélectionnée parce qu'en fait, à la suite de l'aventure, on est comme une sorte de caravane. À chaque fois qu'on arrive quelque part, on repart toujours avec quelque chose. Et du coup, notre caravane s'agrandit. Et donc, on a demandé à une des comédiennes haïtiennes de continuer l'aventure avec nous pour l'escale 3 en Belgique, qui aura lieu en 2018. Et cette femme a de la barbe. Et elle laisse ses poils de jambes pousser, par exemple. Et donc, moi, je me dis, ah bah tiens, le patriarcat prend d'autres formes. C'est-à-dire que le contrôle par rapport au corps féminin s'exerce certainement différemment. Donc, je m'étais fait tout un plan. Oh là là, ici, en Haïti, on a le droit de garder ses poils sans être montré du doigt, sans perdre sa féminité. Et en fait, elle me dit, mais non, pas du tout. Enfin, il y en a qui adorent, mais des fois, je me fais insulter dans la rue. Et donc, le fait de pouvoir en parler, le fait qu'elle prenne cette position, la manière dont elle le vivait, donc elle mettait des shorts, des robes, ouais, je pense que c'était un de mes fantasmes. Je pense que, voilà, c'est un truc tout bête, mais waouh, quelle liberté, elles avaient aussi une grande liberté de parole par rapport à leur vécu, vraiment une grande générosité. Je trouve que moi, parce qu'on parle toujours de l'endroit d'où l'on vient, moi je suis beaucoup plus pudique ou beaucoup plus réservée. Et elle s'appartenait au niveau du regard sur elle. C'était elle qui était maîtresse de leur propre regard sur elle-même. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment ressenti en Haïti. Voilà.
Ok. Moi, j'ai une question comme ça en vous voyant. Évidemment, ce n'est pas radiophonique, hein, mais vous avez quand même tous les deux des étoiles dans les yeux quand vous parlez de cette expérience et la rencontre humaine. Je crois que c'est ça qui vous anime tous les deux et qui fut forte, dense, intense, mais positive. Mais y a-t-il, je vais le nommer comme ça, eu des clins d'œil ou des anecdotes rigolote peut-être ou peut-être étonnante comme celle que tu viens d'évoquer Elisabeth avec la femme à poil.
Tout à fait.
Je vais la nommer comme ça, d'ailleurs on a un chapeau à poil chez nous à Radio Esperanza cette année-ci, c'est les questions à poil.
Super.
Voilà. Alors il n'est pas là maintenant mais on peut aller le chercher s'il le faut. mais est-ce que peut-être vous avez des anecdotes de voyage qu'on pourrait retransmettre à nos auditeurs qui peut-être leur redonneront le clin d'œil local ou le clin d'œil de la rencontre voilà, des choses comiques du sac à dos, comme on dit.
Ouais, ça tombe bien parce que Salifou est le roi des anecdotes. Souvent, on bataille pour qu'il n'en raconte pas trop. Mais alors là, je pense que c'est ouvert.
Salifou, l'anecdote. On peut réfléchir ensemble. Hein.
Ouais. Non, évidemment, il y en a plein, forcément. Il faut rembobiner la mémoire.
C'est vrai, il y a des anecdotes.
Moi, j'en ai une. C'est, par exemple, il y a une de nos comédiennes, parce qu'on a Judith Langerome qui est partie avec nous pour faire un documentaire aussi sur Celle qui veille. Et donc, c'était notre réalisatrice. Donc, elle avait donné des rendez-vous à chaque comédienne dans notre îlot d'immeubles. Donc, à chaque fois... Apparemment, on était introuvables au début des 3 semaines parce qu'en fait, c'est des sortes de... Tu as une grande porte avec un gardien, avec une arme, parce qu'en Haïti, ça rigole pas. Et ensuite, quand tu passes cette porte, mais c'est rempli d'appartements c'est un peu labyrinthe, quoi. C'est vraiment... Et donc, nous, on disait, oui, bah, on habite là, mais venez. Et en fin de compte, il y en a une qui a tourné pendant une heure dans l'îlot d'immeubles sans nous trouver. Et après, entre les comédiennes, elles se disaient « Non, mais vas-y, mais je sais, tu demandes au gardien l'appartement des 3 Blanches et de l'Africain, tout de suite, il va t'indiquer. Hein. » Donc, ça y est, tout le monde savait que Salifou n'était pas haïtien et qu'il était avec 3 Blanches. Et donc, par exemple, et donc, tout de suite, et du coup, après, tout, elle trouvait tout l'appartement, on était bien identifiés. Ça, c'était...
Donc, Salifou, tu voyages avec 3 Blanches, toi?
Voilà.
Facile ou pas facile?
Au-delà de Moi, je disais toujours à René que chaque fois que je venais ici ou quand je rencontrais des gens que j'aimais fort, elle m'a donné la couleur de peau sans vol. Et ça reste l'humain pur qui communique. Donc, moi, en aucun moment, pour être sincère avec vous, en aucun moment, je n'ai senti... c'est les Haïtiens qui me rappellent ça, souvent. Tu vois? Quand je pose mon regard sur Elisabeth ou Sarah, ou, voilà, à un moment donné, pour moi, on est tous pareils. Nous sommes des humains, bon, nous aller, on est là pour quelque chose, on fait un travail. Mais quand les Haïtiens disent « Vous êtes anglais », moi, ça me réveille. Ah, bah, tiens, ouais. Tu vois? Ça vient comme ça. Et parfois, ça me bouleverse. Parce que moi, ce que je recherche dans mon fort intérieur, c'est qu'à un moment donné, on puisse dépasser cette histoire des races, cette histoire de couleurs, que le monde se mélange. Je crois au métissage, je crois à l'humanité, je crois à la force de l'humanité. Pour répondre à votre question, et pour raconter une anecdote que j'ai vécue qui m'a quand même touché, et c'est quand on partait en Haïti, on était tous contents. On se disait, bon, Haïti, on est parti et tout ça, parce que voilà, on prend le bus, tu vas à 7 heures, on arrive à Roissy, on prend le bus à Roissy, le train pour arriver à Roissy, on prend le bus, on arrive à Orly. Alors, on était dans la salle d'entente, Elisabeth et moi, et puis on attendait Sarah et Judy qui sont arrivés. Bon, on était à un moment donné, on partait pour entrer dans l'avion. Elisabeth donne son billet d'avion, sa carte d'embarquement, en fait. Mais vous n'existez pas. Elisabeth fait comment ça? Mais c'est quoi ce billet? Il n'existe nulle part, votre billet. Mais moi, j'étais derrière, j'ai fait, mais il existe notre billet, puisque on voyait Air France. Mais c'était que, en fait, c'était qu'on ne pouvait pas voyager chez vous, malheureusement, parce que Air France avait fait des retards. Donc, à partir de Pointe-à-Pitre, on ne peut pas avoir un avion pour aller à Port-au-Prince. Donc, c'est vraiment tous ceux qui devraient aller à Port-au-Prince. On était au nombre de 6 ou 7 qui étaient débarqués. Donc, on devait repartir. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Et après, bon, chaque matin, il fallait partir à Air France pour demander, parce que bon, on nous disait, vous prenez en charge votre hôtel, après on va vous rembourser. Et chaque matin, il fallait partir à Air France pour redemander tous les matins. Et on a fait ça au bout de troisième fois, la dame de Air France qui sort, qui fait, écoutez, surtout ne revenez plus. Pas pour nous, même pour vous, ne revenez plus. Dans moi, ça m'a fait rire. Cette dame ne voulait plus nous voir. Quoi. Donc, voilà.
Elle avait sa délégation matinale.
Voilà, justement. Donc voilà.
Parce qu'il nous proposait de partir une semaine plus tard par rapport à la date. Mais nous, on avait un atelier à donner. On avait des comédiennes qui nous attendaient. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas autant de pugnacité. C'est-à-dire qu'on s'est levé tous les jours à 5h du matin. À 6h, on était devant le comptoir et on disait, on veut partir. On veut partir, trouvez-nous. Et donc, ils ont dû nous acheter des billets sur Air Caraïbes. Tellement on les a, mais on ne les a pas lâchés, en fait. On ne les a vraiment pas lâchés. Donc voilà, je pense que chez Air France, nos noms sont, je pense, agrémentés de commentaires, sincèrement. Je ne sais pas si on pourra revoyager un jour chez Air France, mais voilà, je vous dis, essayez de boycotter Air France parce que service clientèle, vraiment, ça ne va pas du tout.
Vous êtes donc partie 3 jours plus tard.
Oui.
C'est ça?
Parce qu'on a vraiment fait le pied de grue, parce que sinon, on partait une semaine plus tard. Donc voilà, donc on s'est battu, on voulait vraiment aller à Port-au-Prince, je pense, et honorer notre rencontre prévue avec le festival Negasmaon, le premier festival féministe d'Haïti. Voilà.
Et est-ce qu'on peut trouver des informations d'abord sur vos compagnies? Est-ce qu'on peut trouver des informations sur Negasmaon? Est-ce qu'on peut trouver un Facebook ou d'autres réseaux sociaux? Et si oui, n'hésitez pas à profiter de ces ondes pour les transmettre, pour qu'on puisse vous suivre, vu qu'il y a l'escale 2018 qui arrive très prochainement.
Je pense qu'on a des profils Facebook. Donc, Salifou Kentega, pour lancer la recherche sur Facebook.
Pour toi, auditeur, ne t'inquiète pas, j'indiquerai son nom dans notre petit commentaire radiophonique sur Facebook. Voilà. Merci, Salifou.
Voilà, ouais, il y a que... aussi une page du Festival Négas Mahon en Haïti, vraiment à suivre parce qu'elle est très très bien fournie en niveau d'information, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées pendant ce festival, qui est donc la deuxième édition, l'édition internationale. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été invité. Il y a le site du collectif Carda, qui est notre collaboratrice de Liège. Il y a le site de René Georges aussi,
oui.
Non
oui. De... Et 3WX Catata Group.
Voilà, pour suivre les
commises. Tu peux répéter ce nom de code, s'il te plaît ?
3W.xcatatagroup.be. Ça, c'est le site de René Georges. Ouais. Où il y a des informations sur tout le travail qu'on fait ensemble sur l'Afrique.
Super.
Ouais. Et il y a le Focal aussi.
Oui, le site de la Focal, qui est l'endroit en Haïti qui nous a reçus, qui est un espace de projection et d'activité culturelle. Voilà.
Et avant de se quitter et de laisser l'auditeur à nouveau écouter quelques rythmes endiablés sur nos ondes, est-ce que je peux vous poser une dernière question ? Et d'ailleurs, en fait, je ne vais même pas vous demander la permission, je vais vous la poser tout de suite. Quelles sont vos premières impressions de ce Festival Esperanza ? Et je vous regarde tous les deux, je ne sais pas d'ailleurs, Elisabeth, si c'était la première fois aussi.
La troisième. C'est sa première
fois. Oui, c'est ce que tu disais en introduction tout à l'heure, Salifou. Alors, Esperanza ?
Bon, je dirais Esperanza, je suis là.
Je le confirme.
Parce que René m'a beaucoup parlé d'Esperanza. Et je disais à René, je vais venir à Esperanza, il faut que je découvre ce festival qui est très bien, tout ça. Et à un moment donné, à Jean-Yves qui est venu à Ouaga pour continuer à Fada avec René et on a discuté ensemble et voilà. Et j'avais vraiment envie de venir à Esperanza. Et chaque fois que je venais en Belgique, soit je partais, ça se tenait une semaine après, tu vois, c'est toujours décalé. Et cette fois, la chance est venue vers moi et René m'a dit, bon, Esperanza va se tenir, René serait là. Il m'a dit, bon, Salifou, je vais t'inviter. Je dis, ouais, écoute, même si tu ne m'invites pas, je vais débarquer.
Donc, c'est une technique qui fonctionne pour Air France, pour René voilà. Et pour d'autres.
Voilà, c'est ça.
Il faut s'inviter.
Et voilà, je pense qu'il a fait le nécessaire. Et je suis là, je suis très, très content. D'abord, il m'a fait visiter tous les recoins d'Esperanza. J'ai vu les choses, comment les choses se passent. Mais en amont, j'avais beaucoup d'informations sur Esperanza. Maintenant, je découvre, j'essaie de placer les informations sur ce
les,
que
sur,
j'ai,
sur voilà, les images.
Sur les images, le Villa des possibles. Tu vois, ça me
donc
touche beaucoup.
Donc, il y avait déjà eu les sous-titres à coller voilà, sous les photos.
C'est ça, oui. Et voilà, j'ai vu des concerts que j'ai beaucoup adorés. Je vais encore voir des concerts, je discute avec des gens, je vois que les gens sont enthousiastes, je vois que tout le monde se regroupe dans un endroit. Voilà, on fait la fête. Vraiment, longue vie à Esperanza. Et Esperanza, dis-toi que ce n'est pas la dernière fois que Salifou vient, parce que Salifou va revenir.
Avec ou sans avion. Merci Salifou. Et toi Elisabeth, quelles sont tes impressions
Écoute, moi c'est la troisième fois, donc moi je suis venue voir Lisa Simone, je suis venue voir l'année dernière Patti Smith. Cette fois-ci je viens voir spécialement Grégory Porter et puis Imani. Voilà, j'apprécie vraiment les initiatives de civils en fait, des gens citoyennes qui dans lesquels qu'on peut goûter en fait, on peut goûter l'énergie du mouvement du refus de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se décider malgré nous, au-dessus de nous, sans nous demander notre avis et même quand on le donne, sans nous écouter. Et puis il y a vraiment cette démarche-là et le fait qu'on se retrouve tous à cet endroit-là, ça me donne de l'énergie pour toute l'année. Donc voilà, je me suis l'année dernière abonnée à Imagine. Je le dis parce que c'est un très bon journal. Voilà, à chaque fois que je viens ici, je me fais du bien en fait. Donc voilà, j'espère que chacun d'entre nous, on aura l'opportunité de se faire du bien tout au long de l'année. Voilà.
Eh bien, je n'aurais pu rêver mieux comme clôture d'interview, puisque bah, je vais simplement dire, bah, effectivement, continuons ensemble à briser les murs en créant des ponts. Continuons ensemble à faire la rébellion, la révolution positive. Et c'est clair que bah, ce n'est toujours pas radiophonique, mais sourions ensemble et avançons. Merci à tous les deux en tout cas, et à très très bientôt. Au revoir.
Merci Kiki, merci Dimitri.
Merci Kiki. Merci Dimitri.